La Société historique de Montréal présente Nouveau regard sur notre histoire. Bienvenue, chers auditeurs, amis de l'histoire et de la culture. Au microphone, Éric Bouchard. En ce jour de l'an, notre collaboratrice Jocelyne Delage vous offre une émission entièrement consacrée au souvenir du poète Yves Préfontaine. Elle le présente en ces termes. Anthropologue, poète, écrivain, amant du jazz, Yves Préfontaine publie ses premiers poèmes aux éditions d'Orphée à l'âge de 15 ans. 3 ans plus tard, il tâte de la radio à Radio-Canada, y produisant des émissions sur le jazz, la poésie, les cultures amérindiennes et la littérature noire américaine. Il poursuit des études en anthropologie tout en participant à la fondation des revues Situation et Le Québec libre et en joignant l'équipe de la revue Liberté. Il participe aussi à la fondation du Rassemblement pour l'indépendance nationale car il croit alors sa nation menacée. Diplômé en anthropologie de l'Université de Montréal en 1966, il s'exile à Paris pour y faire un doctorat en sociologie de la culture à l'École pratique des hautes études de la Sorbonne. À son retour, plus que jamais convaincu que le Québec doit être souverain pour éviter une louisianisation, il milite au sein du Parti québécois et devient chef de cabinet du Dr Camille Lorrain, ministre d'État au développement culturel dans le premier gouvernement Lévesque et père de la loi 101, cette charte faisant du français la langue officielle de l'État québécois. Yves Préfontaine voit une continuité entre l'acte poétique et l'acte politique. Parallèlement à ses études, son enseignement dans plusieurs universités et son travail comme gestionnaire dans des sociétés d'État et dans des ministères, il s'est consacré à écrire des poèmes, des articles et des livres, ainsi qu'à faire des émissions et à participer à des films sur la langue française, l'exploration identitaire et la musique. Plusieurs prix prestigieux ont récompensé l'œuvre de ce poète musicien dans l'âme. Mais allons maintenant retrouver Yves Préfontaine dans le studio de la Société historique de Montréal.
Bon, alors Yves Préfontaine, je pense que t'es l'écrivain qui a commencé à écrire le plus jeune, à 15 ans. T'as fait des poèmes.
Oui. Bien évidemment, il y en a Ligand.
Ah, il a commencé à quel âge?
Mais là, c'est au début, il a commencé très, très jeune, lui aussi. C'est un,
plus jeune
c'est
que 15 ans.
C'est un adolescent un peu à la Rimbaud. Bon, Ligand avait 16 ans, 17 ans. Bon. Quand il écrivait, il n'avait pas encore publié, tu sais, mais je parle de début d'écriture, les récitals qu'il faisait, l'École littéraire de Montréal, et tout ça au tout début du siècle, à la fin 19e, c'est au tournant du siècle, vraiment, 1902, dans ces coins-là. Mais disons que dans ma génération, puis entre, je ne veux pas me comparer à Nelly Grand, hein, c'est pas du tout là, mon propos, c'est que dans ma génération, dans l'espèce de renouveau qu'il y a eu fin des années 50, parce que ça commence avant la Révolution tranquille, ces choses-là. Enfin, dans les dernières années, là. Moi, j'ai publié mes deux premiers recueils, comme tu le disais, en 57, donc j'avais 20 ans. Mais c'était des choses que j'avais écrites à 17 ans.
Mais il y en a un que tu as publié à 15 ans.
À 15 ans, c'est des poèmes que Michel Roy, tu sais, l'ancien rédacteur en chef du Devoir.
Oui, oui.
Mais à l'époque, il était dans un journal de gauche, c'était en plein duplessisme. Il y avait de la difficulté, d'ailleurs. Il était rédacteur en chef d'un journal, un hebdomadaire qui s'appelait L'Autorité du Peuple. D'abord appelé L'Autorité et ensuite L'Autorité du Peuple. Alors, le titre dit assez bien qu'elle... C'était plus près de la gauche que de l'extrême droite qui nous menait à ce moment-là. Que ce soit du côté curé ou du côté politique, bon, côté économique, on le sait bien, tout ça. On était dans une situation assez dramatique. Oui. Mais ça a changé assez vite. Alors, c'est ça, j'étais donc peut-être le plus jeune, je pense pas, j'en vois pas. Là, il y a Michel Lalonde, qui est une grande amie, qui a écrit à peu près assez jeune, mais qui a publié un peu plus tard.
Oui, d'accord.
Moi, c'est 157, puis Michel, je pense qu'elle a publié deux petites plaquettes chez le même éditeur. Il y avait, l'Hexagone existait déjà, mais moi, je ne les connaissais pas. Je disais, Miron, je l'ai rencontré plus tard dans ma vie, alors que je fréquentais tout un autre une autre bande, c'est la fin du mouvement automatiste, des peintres, beaucoup, la bohème de l'époque, Fernand Leduc, Mousseau qui a fait la maquette de mon troisième bouquin, L'antre du bohème, ça s'appelait, en 1960. Enfin, tu sais, j'étais plutôt dans ce bain-là que dans le bain des gens qui sortaient de, comme Garcidon, l'activité des JSC ou des JOC, là, je me souviens plus. Moi, je sortais d'un milieu plutôt à gauche, évidemment, mais aussi plus révolutionnaire, si tu veux, vous oui. se voulant. Bon, c'était peut-être oui. une prétention, mais on se voulait plus révolutionnaire que les autres. C'était peut-être un peu naïf, mais ça a été un peu vrai. Tu sais, on était des héritiers du refus global, je veux dire, en ligne droite. Parce que moi, j'ai même une copie du refus global que j'avais trouvé chez Tranquille, fameux libraire de l'époque, Henri Tranquille, l'incroyable Henri Tranquille, qui nous trouvait des livres introuvables ici, où il les faisait venir. Mais évidemment, on pouvait, à l'époque, on commandait, parce que les librairies n'avaient pas la rapidité d'aujourd'hui pour recevoir les bouquins, surtout le temps que ça prenait, parce qu'on commandait, ça venait par bateau à l'époque.
Ah, alors, oui.
Ça pouvait prendre des mois avant d'avoir le bouquin. Mais...
Mais écoute, t'as aussi commencé comme animateur radio très jeune.
Très tôt, très tôt. J'avais 18 ans. Ouais, j'avais 18 ans. Je cachais même mon âge en me camouflant avec une moustache. Parce que, tu sais, il y avait quelque chose de curieux. Il y avait peu de contrôle, il n'y en avait pour ainsi dire pas, de contrôle des cartes d'identité. Ça n'existait pas ici. Il n'y avait pas encore nos photos sur l'assurance maladie, n'existait pas. Il n'y avait pas de photos sur les permis de conduire, tu sais, bon. Mais je me vieillissais, tu sais, avec des grosses lunettes. Pour pouvoir travailler pour l'institution fédérale, il fallait être majeur. À l'époque, la majorité, c'était 21 ans. Moi, j'ai eu 21 ans sous l'ancien régime. Bon, ce n'est que dans les années 60, 63, 64, je ne me souviens plus, là, que les libéraux de l'époque, qui étaient moins cons qu'aujourd'hui, ont instauré le vote à 18 ans, qui m'apparaît infiniment plus normal.
Mais est-ce que tu as commencé à la radio avec des trucs de jazz?
Oui, c'était la toute première série.
Oui.
Ça marchait par série, tu sais, des contrats. Des séries de 13, c'est assez curieux, là. 13 ou des multiples de 13, bon. J'ai commencé par cette émission de jazz, mais j'ai très, très tôt, alors là, à ce moment-là, c'est l'époque où j'ai rencontré davantage et les gens de liberté, entre autres. Et moi, ben, mon émission de jazz ne relevait pas. À ce moment-là, il y avait un service des émissions musicales et un service des émissions culturelles, ce qui était quand même, à mes yeux, plus intelligent que ce qui se passe aujourd'hui. Parce qu'il y a une dégradation, il n'y en a plus de radio culturelle.
C'est sûr.
Une ou deux heures par semaine de musique classique. C'est pas la nostalgie, hein. Je pense que c'est assez objectif, puis je suis pas le seul à penser ça. Je veux dire, quand ils ont changé la radio culturelle, où on a fait des choses assez étonnantes, on a fait des choses, ça dépend, là. Il s'est fait des choses magnifiques en radio à l'époque et en musique. Quand vous pensez qu'il y avait une émission le dimanche soir, puis pas à 3 heures du matin, assez tôt, de musique contemporaine du 20e siècle, entendons-nous. Musique contemporaine que moi j'adorais, parce que j'aimais pas seulement le jazz, j'aime... En fait, j'aime toutes les grandes musiques, puis il y a des grandes musiques, il y en a qui sont très, très simples, les musiques folkloriques, tu sais, je veux dire, ou les musiques classiques d'autres pays, comme l'Inde, qui est un pays de musique incroyable, bon... Je suis tombé très tôt aussi là, dans ces musiques-là, musique d'Asie, musique d'Amérique latine, mais pas les petites choses pour guincher. Là. Il y a un folklore mexicain que les gens ne connaissent pas, qu'avec des instruments traditionnels que j'ai entendu moi sur place, parce que j'ai vécu toute une aventure. Enfin, à 20 ans, je suis parti, j'étais pas loin d'un an, enfin 7-8 mois à peu près, au Mexique et en Amérique centrale. J'étais seul, un voyage en solitaire. Je ne le referai pas aujourd'hui. C'est des trucs qu'on fait à 20 ans.
Ben, Yves Fréfontaine, ça fait bien longtemps que je le connais. Je l'ai côtoyé au RIN sans toutefois être amie avec lui, mais bon, dans des réunions du RIN à l'école d'architecture qui était l'école des beaux-arts, là, c'était là qu'était le centre, l'école d'architecture à l'époque. Puis ensuite, je l'ai vraiment connu à Paris. Je l'ai rencontré avec Philippe Leblond puis René Gagnon, alors qu'il faisait des études, lui, en sociologie de la culture. Et puis, on s'est revus régulièrement parce qu'on faisait tous les deux partie de l'Union des écrivaines et des écrivains du Québec. Alors, lors d'activités ou d'assemblées générales. Puis, je l'ai aussi vu dans des nuits de la poésie, enfin, dans toutes sortes d'occasions ou d'activités littéraires. Et puis, il écrivait de belles choses sur le climat, sur le pays, sur le Québec, sur les gens du Québec. C'était un poète, c'est vraiment un des meilleurs poètes qu'on ait au Québec. On en encense d'autres, mais on oublie Yves Préfontaine qui était vraiment un des premiers, puis un homme assez intéressé par tout ce qui était québécois. Il a aussi fait de la radio, j'écoutais ses émissions de radio, il a fait de la télé. C'est un homme de communication, tout en étant un poète, ce qui est assez rare. Mais enfin, c'est vraiment quelqu'un de super intéressant et que je revois toujours avec grand plaisir.
Extrait de « Être aimé, tué », publié en 2001. Il pleut sur le soleil. On a perdu de vue la terre et ses convulsions. Hier, le désastre absolu nous a surpris. Une étrange conscience marche vers ce qui reste, malgré tout. Mais que peut-elle venir sauver, si tardive, dans l'opacité d'un tel brouillard?
Mais pourquoi t'es allé en anthropologie?
Oui, ben l'anthropologie, ça, je m'intéressais à l'anthropologie depuis que j'étais enfant. Peut-être un peu sur l'influence de mon père, je sais pas, mon père est un scientifique, comme tu sais, c'est un pionnier des sciences au Québec.
Mais
des
c'est
sciences,
un médecin
des
aussi.
Sciences de la vie, oui, il était médecin et directeur de l'Institut de biologie, à l'époque ça s'appelait comme ça. Fondateur, un des fondateurs de l'Institut de biologie de l'Université de Montréal, puis enseignant en médecine aussi, parce qu'il y avait des cours, il y avait la formation, tu sais, pour à la fois biologie et il était un pionnier en microbiologie aussi, tu sais, tout le monde met ça sur le dos de Frappier, mais mon père a précédé en faisant des rapports au gouvernement de l'époque, à Taschereau, puis à Duplessis après. C'est lui qui obtenait des fonds parce qu'il connaissait ces gens-là. Il n'était pas du tout un partisan de ces gens-là, ça n'a rien à voir, mais ces gens-là le connaissaient aussi parce que, tu sais, il était souvent interviewé dans les journaux. Le petit bonhomme de la Bresse, là, tu sais, je sais pas si tu te rappelles, le petit bonhomme, l'homme de la semaine, là, je sais pas quoi, ou la femme,
oui,
c'est plutôt
oui.
Des hommes à l'époque.
C'est une grosse tête sur un petit corps.
Sur un petit corps de rien, oui. en habit de gala. Il était là-dedans souvent, un peu souvent dans sa vie, jusqu'au moment où il a quitté l'université par écœurement, en fait, parce que c'était terrible l'atmosphère qu'avait l'Université de Montréal pendant des années à l'époque, avec sa charte papale. Puis mon père s'est fait taper sur les doigts en haut lieu du clergé montréalais, parce que les recteurs des universités étaient toujours des curés,
Oui. Sans
aucune espèce de compétence, ça n'avait pas d'importance, c'était très politique ça aussi. Politique à l'intérieur du clergé et puis du gouvernement. Alors, c'était Monseigneur Moreau. C'était épouvantable, les problèmes. Alors, mon père a enseigné dans les années... Son retour d'Europe, là, il a vécu plusieurs années là-bas et puis aux États-Unis pour les études plus avancées en sciences, si tu veux. Et il enseignait l'évolution. Il avait même rencontré une époque où il n'était pas connu du tout, sinon comme chercheur, comme savant, c'était le Pierre Teilhard de Chardin. qu'il a rencontrés à Paris avant de le revoir à New York quand Teilhard de Chardin était exilé à New York par sa communauté. Exil doré, tu me diras, mais quand tu veux aller mourir dans ton pays et que tu meurs ailleurs, ça a été le cas de Teilhard de Chardin, il voulait retourner en France, lui, il était français d'origine, sa famille était française, bon. Il voulait retourner, puis il est mort à New York, finalement, si ma mémoire est bonne, il me semble.
Ouais. Mais toi, l'anthropologie...
Oui, l'anthropologie, c'est que, bon, papa avait des tas de bouquins. Entre autres, c'était un ami, il connaissait très bien le pionnier Barbeau, Marius.
Oui, peut-être.
C'est Marius Barbeau.
Marius Barbeau.
C'est le pionnier de l'ethnologie au Canada, pas seulement québécois, mais je veux dire, dans tout le Canada, c'est un type qui a une œuvre inouïe, qui faisait le tour, il est allé jusque chez les Indiens du nord de la Colombie-Britannique, chez les Inuits, chez les Québécois, les Acadiens, qui a fait ça existe encore, je crois, à Laval, je pense que c'est à Laval, des rouleaux de cire, tu sais, à l'époque, il partait avec des machines compliquées pour enregistrer des chansons, des contes, toutes sortes de trucs.
Nous écoutions un « Rire la bouche », document ethnographique recueilli il y a longtemps par Marius Barbeau et son équipe dans les campagnes du Québec.
Et mon père l'a bien connu, puis il y avait plusieurs de ses livres, puis il y avait d'autres trucs, des livres en paléontologie, hein, parce qu'il avait étudié un peu, il avait pris des cours en paléontologie. Et Marcelin Boule, je me souviens, on avait ça, c'est un classique de la paléontologie française, génération lointaine, là, il y a un siècle. Mais c'était des classiques, c'était là et ça me fascinait complètement, ces livres sur les Amérindiens d'Amérique, surtout évidemment les Amérindiens du Nord, puis moi j'ai trouvé dans les bouquins, puis peut-être même dans l'encyclopédie de la jeunesse qu'on avait comme tout le monde à l'époque, les études de vulgarisation évidemment, sur les grandes cultures amérindiennes, c'est-à-dire celles du Mexique, du Pérou, du Venezuela, l'Amérique centrale, enfin tu sais, les Mayas, les Toltecs, les grandes cultures, les Quechua, les Indiens, les Anastasis. Puis moi, depuis que j'ai fait anthropologie, ça fait quand même pas mal d'années, mais on a découvert des choses encore nouvelles. L'âge de l'homme recule de plus en plus. On vient de faire une découverte, là encore récemment, de lamelles taillées, des lamelles de pierre, donc des couteaux plus minces et plus fonctionnels que tout ce qu'on a trouvé comme ce qu'on appelle les pebble cultures en anglais, les cultures des galets, c'est-à-dire les galets
aiguisés.
On aiguisait avec une pierre, on cassait des éclisses, tu sais, de la pierre. Ensuite, il y a la pierre polie qui est plus évoluée, bon, que la pierre de galet, comme on dit, là, qui était simplement par la frappe d'une pierre plus dure sur une pierre un peu plus molle pour faire une espèce de sculpture. Mais c'était des lames, c'était des pointes de lance, à la fois pour se nourrir et pour s'entretuer déjà. Hein, les hommes, ça a commencé de bonne heure. Cette tendance-là. Et c'était d'ailleurs des années, peut-être pas facile parce que je continuais à travailler à Radio-Canada. Puis pendant un bon moment, j'étais rédacteur en chef de Liberté. Puis quand je suis retourné à l'université, à plein temps, parce que j'ai hésité entre le faire à temps partiel ou à plein temps, je me suis dit, à temps partiel, j'avais 25 ans. J'étais pas l'étudiant, le petit étudiant qui sortait du collège à 19 ans, là.
Mais tu as bifurqué là, d'anthropologie en sociologie de la culture.
Oui, ben ça, c'est un peu une erreur que j'ai faite parce que ça aurait été infiniment plus... Je m'intéressais à la sociologie de la culture aussi. En fait, je m'intéressais à trop de choses. Tu sais, j'ai une petite tendance à me disperser à certains moments dans ma vie parce que j'étais trop curieux de tout. Puis la sociologie de la culture, bien écoute, c'est quand même la sociologie qui s'occupe de sociologie de la peinture, sociologie de la sculpture. Il y a une sociologie de la musique. Il y a évidemment ce qui est connu peut-être même davantage parce que c'est la plus ancienne. C'est la sociologie de la littérature. Qui est une façon différente d'aborder la littérature que celle de la critique classique ou des cours de littérature classique. Je suis allé vers ça. C'était comme peut-être comme un petit retour à mes intérêts premiers, parce que j'étais d'abord un gars des arts. J'écrivais. Quand j'étais jeune, c'est assez paradoxal, mais mes premiers grands amis, mes meilleurs amis, ça a été des gens d'art plastique, puis quelques musiciens. Il n'y avait pas beaucoup au tout début, là, tu sais, à 16 ans, 17 ans, quand je fréquentais les lieux, même y compris les bars, toujours en me camouflant. Tu sais, les boîtes, il y avait des boîtes où tu n'avais pas besoin d'être majeur, tu sais, la petite Europe, puis le pam-pam, les chouris.
Le cortijo.
Tout le monde se retrouvait, tu sais. Oui, oui, ben, le cortijo. Et puis l'autre, là, mais ça, je suis allé moins, parce que là, j'étais plus âgé, puis c'est... Je pense que j'avais fait mon temps, tu sais.
Chat noir, tu veux dire?
Le chat noir, j'ai connu ça, évidemment. Oui. C'était Patrick Straram qui avait créé ça à l'Élysée. Ça faisait partie de l'Élysée, du fameux cinéma à l'Élysée, qui était un pionnier de cinéma de qualité au Québec, je veux dire. C'est extraordinaire ce qu'on a vu là à l'époque, parce qu'on voyait rien avant, hein. Le cinéma était censuré d'une façon... tu sais, il y a eu des films qui ont été faits, même des reportages plus récents, là, tu sais, sur la censure de l'époque, c'était d'un ridicule.
Écoutez Nouveau Regard sur notre histoire à l'antenne de Radio Ville-Marie. Au microphone, Éric Bouchard. Retrouvons à nouveau Jocelyne Delage en compagnie du poète Yves Préfontaine.
Mais toi, tu t'intéressais à la politique à un moment donné, c'est-tu parce que tu as
eu
peur de la
louisianisation
du Québec?
La louisianisation, c'est un mot que j'ai créé, ça. Les gens ne savent pas. Ouais. D'ailleurs, je la crée encore.
Oui?
Je la crée encore, parce qu'écoute, on a beau eu travailler... on va peut-être y venir plus tard. Je veux dire, moi-même, j'ai essayé de faire ce que je pouvais, tu sais, parce que j'étais avec Lorrain, bon. Mais depuis que j'étais très jeune, et ça aussi, c'est peut-être un peu le milieu familial. Mes parents, évidemment, mon père, ma mère aussi, ma mère était enragée de la langue française. Mon père, on n'en parle pas. Il dénonçait déjà le charabia scientifique, tu sais, en disant, comme Claude Bernard, tu sais, le grand médecin. Introduction à la médecine expérimentale, là, qui est un classique, qu'on étudiait d'ailleurs en anthropologie, parce que ça, il y a des tas de principes là-dedans qui s'appliquent aux sciences humaines autant qu'à la médecine. La médecine, il y a tout un pan de la médecine, de toute façon, qui est comme une espèce de science sociale, une science humaine aussi. Non, c'est ça. Puis j'ai été conscient très tôt. Le devoir, on était des fidèles du devoir. Là, je pourrais écrire une lettre, moi, comme fidèle du devoir en ce moment, avec pour le centenaire, là, de fondation du devoir. Puis je lisais ça très tôt. J'étais pas un adolescent puis un enfant ben normal. T'sais. J'ai passé ma vie dans les livres au lieu de faire du hockey, puis j'ai jamais joué au hockey de ma vie, alors je suis une espèce de Québécois bizarre, t'sais. Un jeune Québécois qui a jamais joué au hockey. Mais il faut dire aussi que tu sais, je faisais de l'asthme quand j'étais jeune, puis c'était un obstacle un peu. Quand il faisait trop froid, j'étouffais. Oui. Bon, donc ça m'a un peu éloigné, sauf que j'ai fait beaucoup de ski, c'est autre chose.
Mais pour revenir à la politique, tu as été un des fondateurs du RIAN.
Du RIAN, oui. Un des 24, ou... 24, 22, 24. J'étais membre fondateur, puis un peu plus que ça, parce que la fondation du RIAN, il y a eu beaucoup de gens qui n'étaient pas encore membres, qui sont venus à la fondation, puis qui se sont inscrits. C'était en janvier 60. Mais moi, je connaissais d'Allemagne. Je sais plus trop comment. J'ai connu par des amis, tu sais, Léon, par des fréquentations, des copains. André, il faut dire qu'il était sorti avec la sœur aussi d'un copain de collège. Et puis, je ne sais pas te dire si c'est par là ou je me souviens plus, c'est trop loin. Alors, c'est ça. Puis André, déjà, ça, c'était dans l'air. C'est pas avec André qu'on a créé Québec libre. Il était pas là. Il y avait plusieurs cellules, si on peut dire. C'est des... pas au sens cellules terroristes ou cellules communistes comme autrefois, mais des cellules sociales. On s'y met à rencontrer des gens de Québec qui étaient d'accord avec nous. Puis, ce qui était à l'époque plus évident qu'aujourd'hui, parce que Québec, c'est devenu pas mal conservateur. Je parle de la ville et de... on garde leur vote. Évidemment, c'est pas tout le monde, c'est pas tout le monde, mais disons que c'est une tendance.
Est-ce que
à Montréal, on est plus menacé et je me sens... Je trouve qu'on est aussi menacé que quand j'étais jeune, puis que je descendais dans le centre-ville et qu'on n'entendait que l'anglais, qu'on allait dans les grands magasins, puis on se faisait garder de haut par les serveuses. C'est, on était des sous-serveurs.
Oui. C'est redevenu comme avant en ce moment.
Ah, c'est pas mal comme ça.
Le Montréal s'est anglifié d'une façon épouvantable.
D'une façon à toute vapeur. Ouais. C'est épeurant. T'sais. Alors moi, la louisianisation, c'est un mot que j'ai fait en 59. Comme la québécitude, d'ailleurs. Mais la notion de québécitude, c'est peut-être pas... Moi c'est, je trouve que le mot louisianisation est plus important à mes yeux.
Oui.
Parce qu'il dit bien ce que ça veut dire. Les francophones de la Louisiane puis du Sud, ça s'est fait très vite. Ça s'est fait plus vite qu'ici. Ici, on est digéré lentement.
Oui. C'est donc, pire. C'est pas un hasard si t'es devenu chef de cabinet de Camille Lorrain.
Non, c'est pas un hasard.
C'était le souci.
C'était l'idée d'être fidèle, parce que j'ai vu rapidement que c'était pas un job pour moi tellement. C'est très, très dur. Mais il faut pas que tu sois... Moi, j'ai un tempérament nerveux. Mes dossiers me suivaient trop à la maison, alors que le génie des vrais politiciens ou des grands administrateurs, je pense, c'est d'oublier. Tu fermes la porte de ton bureau, puis pssst, tu vas ailleurs, tu fais du sport, tu fais n'importe quoi, mais et moi malheureusement j'étais ça me suivait tout le temps, tu sais, puis j'ai fait ce que j'ai pu, c'est-à-dire que j'ai fait mon vis-à-vis de moi, c'est comme si j'avais fait mon devoir. Ça a l'air un peu prétentieux de dire ça, mais c'est ça, tu sais, c'était comme être fidèle à ce que je pensais depuis que j'étais adolescent.
D'accord.
Parce que ça commençait jeune, c'est... puis même si ce que j'écrivais avait rien à voir à ce moment-là. Parce que la petite phase pays à laquelle on m'a identifié, c'est petit dans ce que j'écris. Mais seulement, c'est ce qui a marqué le plus. Tu sais, mes bouquins qui avaient ça comme thème, tu sais, Pays sans parole, débâcle, surtout Pays sans parole. Mais enfin, mes bouquins, sauf le deuxième peut-être, ont eu quand même à l'époque, tu sais, c'est un peu oublié aujourd'hui ça, mais ont eu, je regarde les trucs de presse que j'ai, et c'était une époque aussi, je dois dire, où on avait d'excellents critiques, et les critiques, c'était pas des petits entrefilets, là, tu sais, comme il y en a, c'est rendu qu'il y en a même plus, des entrefilets sur la poésie,
oui,
surtout.
C'est vrai.
Puis les essais, il y a très peu, c'est minable. La critique littéraire, la critique dans pas mal de domaines, d'ailleurs, pas seulement littéraire. Puis, poésie, on n'en parle pas, on en parlait beaucoup à l'époque, parce qu'elle était très, elle avait une présence sociale. On n'a pas inventé les récitals de poésie aujourd'hui, hein. C'est pas Trois-Rivières qui a inventé ça. On en faisait, moi, quand j'avais, avec Michel Lalonde, Marcel Sabourin, des gens qui faisaient partie d'une espèce de groupe. Je suis allé là-dedans très jeune. Il y avait Sol qui était là, et sa Sol, puis sa femme. Marc Favreau, il y avait Guy Gaucher, peintre, caricaturiste pendant un bon moment, qui était un excellent caricaturiste. C'était un copain. À l'époque, Et puis bon, ben, on en a fait des lectures. On en faisait d'ailleurs à un endroit, je ne sais pas ce que ça devient, c'est l'école d'R.C. McGee sur l'avenue des Pins, où il y avait un auditorium. On en a fait là, puis on en a fait dans des boîtes, évidemment, qui commençaient à s'ouvrir. Tu sais, justement, les Chouris, des endroits comme ça.
Est-ce que tu nous en lirais de tes poèmes?
Ah ben oui, attends un peu, là, que je... Peuple inhabité, extrait de Pays sans parole, publié en 1967 à l'Hexagone. Le texte lui-même a été écrit vers 1960. 59-60, dans ce coin-là. J'habite un espace où le froid triomphe de l'herbe, où la grisaille règne en lourdeur sur des fantômes d'arbres. J'habite en silence un peuple qui sommeille, frileux sous le givre de ses mots. J'habite un peuple dont se tarit la parole frêle et brusque. J'habite un cri tout alentour de moi, pierre sans verbe, falaise abrupte, lame nue dans ma poitrine, l'hiver. Une neige de fatigue étrangle avec douceur le pays que j'habite, et je persiste en des fumées, et je m'acharne à parler, et la blessure n'a point d'écho. Le pain d'un peuple est sa parole, mais point de clarté dans le blé qui pourrit. J'habite un peuple qui ne s'habite plus. Et les champs entiers de la joie se flétrissent sous tant de sécheresse et tant de gerbes reniées. J'habite un cri qui n'en peut plus de heurter, de cogner, d'abattre ses parois de crachats et de masques. J'habite le spectre d'un peuple renié comme fille sans faste. Et mes pas font un cercle en ce désert, une pluie de visages blancs me cerne de fureur. Le pays que j'habite est un marbre sous la glace, et ce pays sans homme de lumière glisse dans mes veines comme femme que j'aime. Or, je sévis contre l'absence, avec entre les dents, une pauvreté de mots qui brillent et se perdent.
T'as enseigné à McGill, est-ce que c'est le français que tu enseignais à McGill?
J'ai pas enseigné super longtemps d'ailleurs, parce que là, mes expériences universitaires, ça a été dans une période, alors c'est une autre période de crise. Je venais de rentrer d'Europe, moi, au mois d'août, parce que j'étais parti quand même plusieurs années à Paris, justement, tu sais, le doctorat, d'accord, mais j'ai aussi travaillé pour l'ORTF, c'est-à-dire ce qu'on appelait l'ORTF à l'époque, qui est Radio France, tout simplement, aujourd'hui. J'ai fait pas mal de trucs sur le Québec, surtout. J'ai même fait, je me souviens, une ligne ouverte de plusieurs heures, bon Dieu, qui était sur tout le territoire de la France avec Jacques-Yvan Morin, toujours à l'ORTF. Ben, évidemment, j'ai travaillé essentiellement pour l'ORTF. Mais ça s'est fait parce que, bon, les gens que je connaissais, Pierre-Emmanuel, bon, qui connaissait bien le Québec, quand je suis arrivé à Paris, je l'avais rencontré ici. Pierre-Emmanuel était poète et romancier, mais il avait été professionnellement, si tu veux, directeur à Radio France Internationale, qui existait déjà. Et comme directeur de ça, ou un des patrons, il était venu au Québec plusieurs fois. Et pour te dire, parce que c'est pas nouveau ça, l'état de la connaissance de notre poésie au Québec, chez les Québécois et des universitaires, il avait fait une conférence à l'Université de Montréal, mon père était là, mais... Ah non, mon père était pas là, il me l'a rapporté, parce que s'il avait été là, il savait, parce qu'il connaissait Grandbois. La poésie aussi, c'est important, j'ai oublié de te dire ça, c'est que mon père avait les deux premiers recueils de Grandbois parce qu'il le connaissait. Il faisait partie d'une espèce de club de gens qui avaient voyagé, là, qui s'appelait le club Marco Polo. C'est des gens qui avaient fait plus que tant de milliers de milles, tu sais. Alors que mon père avait pas mal voyagé, y compris en Alaska, au bout du monde, à l'extrême nord de l'Alaska, pour des études, tu sais, de biologie marine.
Oui. Alors, le fait que tu sois McGill, c'est ça qui t'a sauvé de ne pas être amené en prison.
Oui, ça, c'est un paradoxe extraordinaire.
La
ça.
Loi des mesures de guerre.
Oui, mais c'est parce que j'étais sur les listes, hein, j'étais sur leur liste, de ceux qui sont venus chez moi, en tout cas. Parce que, bon, ils sont venus chez moi. 5 heures du matin, tu sais, quelque chose comme ça. C'était pas immédiatement, c'était le lundi. Mais ça m'a tellement traumatisé. En plus, j'étais revenu ici assez down, tu sais, assez... après, c'est presque 4 ans et demi d'absence, même si je venais chaque année, on avait des billets d'avion pour des peanuts, on avait une espèce de petit racket à Paris à l'époque, c'est impensable aujourd'hui, avec les ordinateurs, mais on connaissait des agents de bord, en tout cas, pas des gars d'Air France, en tout cas, qui nous vendaient des billets pour $80 aller-retour, tu sais, puis 100$, disons. Ah.
C'était la belle période,
ça. Oui, ça, c'était assez quelque chose.
Ouais. Mais t'as enseigné aussi à l'UQAM.
Oui, alors, McGill, j'ai vraiment quitté parce que j'ai trouvé leur attitude infiniment discutable par rapport aux profs francophones pendant l'application, à partir de l'application de la loi des mesures de guerre. Parce qu'on était quelques-uns, il y avait peu de Québécois à cette époque-là, mais il y en avait quelques-uns, il y avait Jean-Étienne Blais qui était là, qui était d'ailleurs directeur du département quelques années. Je sais pas si c'est lui qui était là à ce moment-là. En tout cas, Jean, il voulait beaucoup. Je l'avais revu à Paris, puis il voulait que j'aille à McGill. Moi, je pensais pas. Je me disais, oh, McGill, non, aller enseigner là, université anglophone, surtout à l'époque. Aujourd'hui, ça a moins de sens. Mais à l'époque, ça avait du sens. Ça avait du sens. Finalement, je suis allé à McGill pour des raisons un peu terre-à-terre. Parce que j'avais eu quand même 3 offres. J'avais McGill, Montréal, puis Laval. Je suis allé là où le salaire était le meilleur. C'est aussi bête et aussi terre à terre, et peut-être que je m'en veux un peu même d'avoir été comme ça. Mais l'Université de Montréal m'avait fait une offre qui était absolument déraisonnable. Un salaire surtout comme Aurieux était arrivé comme assistant professeur, tu sais. C'est ça, il y a eu une attitude. J'ai même eu une rencontre avec le principal, le principal, le grand patron, si tu veux, le recteur, en fait, de McGill, qui s'appelait un dénommé Bell à l'époque, les cloches. Et puis j'ai eu une discussion assez. Je me suis trouvé d'ailleurs un front de bœuf de faire ça, mais je l'ai fait. Puis j'étais assommé par la loi des mesures de guerre, comme tout le monde, si tu veux. Mais bon, moi, ils sont venus chez moi. J'ai pas fini, je pense, mon histoire. J'y reviens. Ils sont venus chez moi, mitraillettes dans Beden, tu sais, les mitraillettes courtes, là. C'est pas des MK-14, quand même, tu sais, c'est une mitraillette bout portant, tu sais, que les policiers utilisent ou dans les guerres, les guérillas, dans les villes, de porte à porte, tu sais. C'est pas trop lourd, c'est pas trop gros, mais ça tue très, très bien. Où ça blesse, évidemment, horriblement. Donc, c'est ça. Ils me tassent dans le salon, dans mon petit appartement que j'avais en rentrant, là. Puis il y en a deux qui s'en vont. C'est un flic puis un militaire. Parce qu'il y avait les deux, hein, c'était mélangé. Il y avait police de Montréal, SQ, gendarmerie royale, l'armée. Tout le monde était là. Ouais, gros party. Un beau gros party. Et ils m'ont demandé de m'identifier. On n'avait pas de carte d'identité aucune à l'époque sur laquelle on avait nos photos. Puis McGill, on avait une photo de notre gueule. Donc, c'est la première chose, comme je venais d'arriver, ma carte était là, tu sais, je m'en servais pas, je m'en étais pas servi encore, je pense. Quand c'est arrivé, ces événements-là, on m'avait donné ça à peu près 3 semaines, 1 mois avant, là, tu sais, quand je suis arrivé, en septembre. Et ils ont regardé ça, puis là, je les voyais pas, mais je les entendais, tu sais, c'était comme... c'est pas vraiment isolé parce que je les entendais. C'était un appartement qui n'était pas immense. J'ai plus ce que j'ai trouvé quand je suis revenu de Paris. Tu sais, j'ai pas magasiné beaucoup. Tu sais, ça. En tout cas. Alors, il y en a un, j'entends un des deux gars qui dit, ouais, celui-là, je te le dis, c'est à peu près tel quel. Celui-là, il est sur nos listes. Mais il doit pas être ben dangereux parce qu'il travaille pour les Anglais. C'est une des grandes... C'était une insulte là-bas, je l'ai pris comme ça. Je savais pas, moi, ce qui se passait. C'était, tout était là, dans quelques jours. Même en 48 heures, ils ont fait des rafles de gens de parfaitement innocents, tu sais. Enfin, on le sait mieux maintenant, mais les gens, ont oublié cette espèce d'outrage inouï qu'a été la loi des mesures de guerre par rapport à l'ensemble du Québec, tu sais, c'est Québec francophone. C'est quelque chose de triste. Alors, j'avais raison de m'être engagé. Mais seulement, ils m'ont pas arrêté. Et ils ont dit, ouais. Mais il aurait pu m'embarquer quand même, tu sais. Il y a quand même des profs, comment il s'appelle, il y a un des gars qui était, lui, qui est prof à l'UQAM, c'est force de sciences politiques, je pense. J'oublie son nom, qui était très proche du deuxième FLQ.
Mais il y a Robert Comeau, entre autres.
Comeau, c'est ça.
C'est lui que tu cherches.
Politicologue,
ah, oui.
Je crois. Hein?
Oui, politologue.
C'est ça, oui, politologue, comme on dit aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs.
Ah oui? Oui. Ouais. Donc, la violence, t'as toujours des plus hauts degrés,
oui.
Évidemment.
Moi, j'ai eu des amis. Écoute, j'étais ennuyé bien avant la loi des mesures de guerre. Faudrait quand même que je te raconte ça. C'est en 64, au moment de l'ALQ, l'Armée de libération du Québec. C'est des gens que je connaissais. Donc, tu sais, ils savaient que, tu sais, ils savaient tout. Hein. Ils étaient au courant même que moi, j'ai connu plusieurs de ces gars-là à Percé. Parce que j'allais souvent en Gaspésie à l'époque et dès que j'avais des vacances, j'avais une passion pour le Bas-Saint-Laurent depuis toujours. Mon père est originaire de là, tu sais, j'ai des espèces de racines dans ce pays-là et puis la Gaspésie aussi. Je sais pas, ça m'a marqué beaucoup, même dans mes premiers bouquins. C'est pas descriptif, mes bouquins, évidemment. Mais là, tu sais, la géologie de ces pays-là m'a marqué, la botanique, là. Tu sais, j'utilisais un vocabulaire, j'empruntais assez souvent à la géologie, puis à la botanique. La géologie, surtout. J'avais une passion pour les roches. J'ai une collection incroyable, d'ailleurs, mais qui est dans mon sous-sol, c'est dans des boîtes, parce que je peux pas étaler ça, j'ai pas de maison assez grande. Ce qui aurait été beau, mon rêve, c'est toujours d'avoir des coffres recouverts de verre, tu sais, pour étaler
un
petit musée géologique, tu sais, chez moi.
Nous écoutions une des pièces favorites de notre invité Yves Préfontaine, Bye Bye Blackbird, une pièce de jazz interprétée par Miles Davis.
J'ai écrit un texte, on avait fait un voyage, le groupe de Liberté à Manicouagan, qui était en construction, mais qui était pas mal avancé. Et puis on a fait un numéro là-dessus. Puis j'ai fait un texte qui s'appelait Le rêveur et le constructeur, qui lui a été réimprimé dans d'autres journaux. Oui. A été cité assez souvent, j'y avais eu des critiques. Les gens parlaient du numéro, mais ils parlaient beaucoup, beaucoup, beaucoup de mon papier. Ça m'avait étonné, parce qu'il y avait de très bons papiers là-dedans. Godbout, puis toute la bande était là. Je sais pas si Hubert était là, Hubert Aquin. Je pense que c'est avant qu'il rejoigne Liberté. Je me souviens plus. Mais tu sais, Fernand Ouellet, Jacques Folcherie, tout le groupe, le comité de direction de l'époque. Et on avait fait un pas mal beau numéro là-dessus, mais qui aujourd'hui, évidemment, ça a peut-être vieilli, mais ça n'a pas vieilli dans la mesure où c'est un portrait du moment. Puis ça, ben, ça fait partie de l'histoire. c'est un portrait d'une époque, tu sais, quand tu dis Hydro était entièrement, tout était en français. C'est la première fois qu'on voyait ça dans notre histoire. Et puis beaucoup, beaucoup, beaucoup d'ingénieurs, la plupart des ingénieurs puis des spécialistes étaient québécois ou des Français aussi qui étaient là, parce que les Français sont assez forts dans les questions techniques là.
Pour en revenir à la littérature, il y a des critiques qui ont dit que ton livre le plus important, c'était Être aimé, tuer. Est-ce que tu es d'accord avec ça?
Ben oui, je suis relatif. Oui, je suis d'accord. Mais il y a d'autres critiques qui ont dit que c'était Pays sans parole. Parce que Pays sans parole, il faut dire que c'est un livre qui avait eu beaucoup de résonance. Hein. Ça a paru avant L'homme rapaillé, en 67, donc c'est 3 ans avant. Et c'était... Il y avait une partie de ce livre-là, parce que je répète qu'il n'y a pas seulement le thème du pays que j'ai, contrairement à d'autres qui sont restés dedans, d'ailleurs. Il y en a qui sont disparus aussi, parce que, bon, il y avait ceux qui suivaient, tu sais, puis qui écrivaient dans la veine du pays, dans la veine identitaire, si tu veux, bon. Mais c'était plus, ça venait plus des tripes, là, c'était comme répéter des choses avec les influences d'un tel ou d'un tel ou d'un tel... Mais j'ai eu cette période-là, Bon pays sans parole, c'est parce que c'était aussi le livre qui a été réimprimé plusieurs fois. C'est peut-être pour ça que, à l'époque, c'était plutôt rare. Hein? Puis en 67, en plus, on avait réédité mon premier bouquin, Boréal. C'était Michel Beaulieu qui avait réédité ça. Il y avait une petite
meilleure édition.
Oui, ouais, Lettres québécoises. C'était comme une deuxième édition, plus simple que la première. Ça visait pas mal, ça, cette deuxième édition-là, ben, parce qu'il y avait une demande. Puis en plus, ben, on l'a fait assez sobre, parce que ça coûtait moins cher aussi pour lui, pour l'éditeur. On visait la clientèle scolaire aussi, parce qu'on était enseigné à l'époque, tu sais.
Oui.
Aujourd'hui, c'est facultatif, semble-t-il.
Oui.
Mais il y a
Dis
eu des
donc,
années...
alors, pour terminer, donc, toi, ton livre le plus important...
Ben, Être aimé, tuer, c'est un livre important, ça, c'est,
oui,
c'est pour moi, c'est vrai, oui.
T'as mieux l'autre?
Ben, c'est difficile à dire, tu sais, parce
c'est
que... Il y a des poèmes aussi, tu sais, il y a des poèmes pris en soi, pris en eux-mêmes, qui, dans chacun de mes recueils, au fond, il y a des choses que je trouve, tiens, je me dis ça, c'est une des plus belles choses que j'ai écrites, quand je relis ça, surtout après des années de recul. Dans Nuaison, il y a des choses que j'aime beaucoup, c'est des poèmes en prose surtout, parce que j'ai écrit pas mal de poèmes en prose, qui pour moi avaient une tonalité différente des poèmes en vers, même si le poème en vers, pour moi, est assez rigoureux. Les reports de mots, de phrases, pas de mots, mais de phrases, les reports sur l'autre ligne, ça correspond à une ponctuation, tu sais,
ou
à un petit souffle de silence, tu sais.
Est-ce que tu nous en lirais, de tes poèmes?
Ah ben oui, attends un peu, là, que je...
Ben écoute, Yves, on pourrait continuer longtemps, parce que c'est vraiment intéressant, mais malheureusement, le temps file.
Oui.
Alors, je te remercie beaucoup pour cette entrevue.
J'ai fait de la radio pendant presque 20 ans, alors je sais ce que c'est.
OK. Bon. Alors là, tu vas lire ton poème.
Un extrait de mon dernier recueil, qui s'intitule « Les mots tremblent », qui a paru il y a à peine un an, un an et quelques mois. Je vous lis le poème liminaire. Les mots tremblent. L'horizon, un bloc. Les mots tremblent. Nul socle où poser son poids. Les mots se disloquent dans l'immensité du désordre. L'eau se meurt lorsque grandit la soif, la peur énorme, comme brouillard trop lourd, muraille d'acier qui cerne les vivants. Le nous se disloque aussi dans des fumerolles d'angoisse. Chacun, chacun pour seul, dans l'aube charbonneuse. Seul sur le sol aux infinis poisons, étendu là sur le sol des villes, des plaines, des forêts, des cordillères qui s'effritent. Demain, après-demain, il n'y aura plus de mots pour trembler, comme aujourd'hui tremble l'homme stupéfait de ce qu'il est.
C'était Jocelyne Delage en compagnie du poète Yves Préfontaine. Réalisation Jean-Charles Désiel. Au microphone, Éric Bouchard qui vous souhaite, au nom de la Société historique de Montréal, ses meilleurs vœux pour la nouvelle année.